Bon, ben, du coup, je pense que vous allez tous bien. Hein. Après ces fêtes, on va se recommencer une bonne année bien, bien rechargée. Je pense que du coup, mon message va faire la transition aussi, puisque la perspective va être justement ce royaume. Moi, j'avais choisi le thème de rechercher la paix et l'honneur de l'autre. Donc, on va parler de violence et de conflit. Et de comment Dieu veut nous encourager à pas détruire, mais à construire dans la vie de l'autre. Voilà. Donc Samuel a préparé un PowerPoint. Il va s'en occuper. Hein. Oh, Samuel. Bon, c'est pas facile d'avoir à parler sur ce les uns les autres, parce que s'il y a bien un domaine où il faut beaucoup d'humilité, c'est bien celui-là. Hein. C'est un vrai challenge, le ensemble. C'est le gros challenge de l'humanité depuis le début, hein, depuis le tout début. Donc si on ne se sent pas au point, c'est plutôt normal. Comment nous supporter les uns les autres? Et vous êtes gentils, mais parfois la question se pose. Comment vivre ensemble en paix, hein? J'ai trouvé cette citation de Jean-Paul Sartre, qui passe pour une gloire de la littérature française. Hein, et il était très athée, ce monsieur, il ne croyait vraiment pas en Dieu. Mais il avait quand même une notion assez précise de l'enfer, et il a annoncé que l'enfer, c'est les autres. L'enfer, c'est vous. Hein. L'enfer, c'est l'autre, c'est celui qui me meurtrit, qui me blesse, qui me rabaisse, qui me prend, qui me dérange. Et ça en dit long sur ce qu'on peut construire ensemble. Merci, Véro. Ça en dit long sur ce qu'on peut construire ensemble. Et est-ce que c'est ça notre rapport à l'autre? Parfois, oui. Hein. Mais ce n'est pas celui de Dieu et ce n'est pas celui que la Bible défend. Donc, mon plan pour ce message, ça va être de montrer comment toute la Trinité travaille à nous apprendre à vivre ensemble en paix, en vue d'honorer notre prochain. Donc, on va voir en partie 1 comment le Père, il est venu poser cet enseignement du « ne vous détruisez pas les uns les autres ». Comment Jésus, lui, il va venir reprendre cet enseignement, mais aussi le porter plus loin. Il nous montrera la voie par excellence. Et en partie 3, comment l'esprit nous transforme. Hein. Farid, le verset qu'il a donné, hein, c'est vraiment l'esprit vient nous revêtir pour être image de Dieu sur terre. Dieu ne se contente pas d'éviter le chaos. Hein. Il a un vrai bon projet pour nous. Et en cette année 2020, on va pouvoir avoir plein de bonnes résolutions. On peut passer à la diapositive suivante, je crois. Si vous vous blessez les uns les autres, et si vous vous entre-déchirez, prenez garde, vous vous détruirez mutuellement. Je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Est-ce que vous avez déjà eu envie de tuer? C'est possible, ça arrive. Voilà. Ou envie de violence? Vous avez connu la jalousie? La colère, la haine, l'amertume, le mépris aussi. Et vous vous rappelez certainement de ce moment de bascule dans votre cœur où vous avez envie de faire mal à l'autre, de prendre le pouvoir, hein, par un geste violent ou juste avec quelques mots bien choisis. On peut même y prendre plaisir, hein. C'est les Proverbes 18, verset 8 qui nous disent que les médisances sont comme des gourmandises. Elle pénètre jusqu'au profond de l'être. C'est agréable, c'est admis, et vous trouverez beaucoup de personnes pour vous y encourager. Et c'est souvent justifié en plus. Quelqu'un vous a fait du tort, hein, c'est le fameux parce que, le mobile du crime. Et il suffit parfois de pas grand-chose, hein, juste un peu d'orgueil contrarié. Alors la Bible est truffée de témoignages de personnes qui ont eu à lutter contre ces idées de violence et de méchanceté. On se rappelle de Caïn qui tue son frère, de Lémec qui, pour une blessure, promet un massacre, Ésaü qui haït Jacob, Siméon et Lévi, ses fils, qui conspirent et massacrent pour venger l'honneur de leur sœur, Dina, les frères de Joseph qui se liguent pour le détruire, le peuple dans le désert qui pensait toujours au moindre problème que tuer Moïse, c'était la solution pour s'en sortir. Mais même dans le confort du pays promis, ils n'ont pas réussi à vivre en paix les uns avec les autres. Il fallait qu'ils se fassent la guerre, qu'ils se volent, qu'ils se jalousent, etc., etc. On pourrait rester en détail sur chacun de ces conspirateurs que la Bible raconte, de tous ceux qui, par amour d'eux-mêmes, n'ont pas hésité à écraser leur prochain. Pourtant, Dieu, il est intervenu très très tôt, en la personne du Père, pour poser cet enseignement du « ne vous détruisez pas les uns les autres ». Si vous vous entre-déchirez, vous vous détruirez mutuellement. C'est une des premières interventions de Dieu juste après la chute. C'est vraiment sur ce thème-là qu'il vient chercher l'humanité. Il intervient à deux reprises et en personne, ce qui n'est pas si courant. Il a cherché de suite à prévenir la violence parce qu'il sait bien que c'est ce qui nous pend au nez. Il est venu voir Caïn. Caïn était très en colère contre son frère Abel, très jaloux. Et il lui a dit, « Caïn, pourquoi te mets-tu en colère ? Et pourquoi ton visage est-il sombre ? Le péché est tapis à ta porte. Il porte ses désirs vers toi. Mais toi, toi Caïn, maîtrise-le. » Alors son enseignement est très clair. D'entrée de jeu, il nous dit qu'on est vulnérable face à la colère. Lorsqu'on est en colère, on est vulnérable. Parce que Satan flaire le sang. Et Satan, moi, j'aime pas voir le diable partout, mais là, dans ce passage, pour le coup, c'est bien appuyé qu'il va vous demander du sang. Celui de votre frère, ou de votre conjoint, de votre patron, de votre voisin, pourquoi pas même celui de votre enfant. Satan flaire le sang. Il cherche à détruire tout ce qu'on construit. Ses intentions sont claires. Mais ce que nous dit aussi ce passage, c'est « toi, maîtrise-le ». Il y a là, très tôt, dans l'histoire de l'humanité, l'affirmation de notre responsabilité, et notamment dans la gestion des conflits. Et je ne sais pas si vous êtes de ces flingueurs qui dégainent à la moindre occasion, ou bien de ces personnes qui prennent sur elles et qui finissent petit à petit par s'aigrir. Mais il y a des fortes chances pour que vous ayez, très rapidement, là dans les jours qui viennent, besoin de prendre position dans une situation, de choisir une attitude, une posture. Et ça va très vite, en général. On a l'exemple de Jacob, qui est intéressant sur ça. Jacob, il a beaucoup appris pendant sa vie. Il y a des gens qui partent avec un relationnel facile, mais clairement, pour Jacob, ce n'était pas le cas. Il a eu des problèmes avec à peu près toutes les personnes qu'il a rencontrées. Ses parents, ses femmes, son frère, son beau-père, ses voisins, tout le monde y est passé, même ses enfants. Mais il a aussi beaucoup appris de Dieu. Je vais pas en coup. Voilà. Donc il a beaucoup appris de Dieu. Et à la fin de sa vie, au moment de bénir chacun de ses 12 fils, qui est un moment quand même assez clé dans l'histoire du peuple après, il va afficher une posture forte et déterminée vis-à-vis de deux de ses fils, Siméon et Lévi. Les deux frères s'étaient ligués pour venger le viol de leur sœur, Dina, par un habitant du pays. Et ils avaient décidé d'organiser le massacre de Sichem. Et Jacob n'a pas été d'accord avec cette attitude, il leur en a voulu. Il a dit « Siméon et Lévi sont frères. Ils se sont mis d'accord pour semer la violence. Non, je ne veux pas m'associer à leur complot. Je mets un point d'honneur à ne pas les approuver. Car mus par leur colère, ils ont tué des hommes. Poussés par leur caprice, ils ont mutilé. » Donc Jacob a pris position face à la violence et il a dit à ses fils, malgré tout ce qu'il en coûte pour un père de voir sa fille être violée, il a dit à ses fils, non, la justice pour Dina, ça n'était pas ça. La justice pour Dina, ça n'était pas un massacre. Un peu plus tôt dans l'épisode avec Caïn, Dieu était revenu une deuxième fois le voir. Et il lui avait demandé, Caïn, où est ton frère ? Qu'as-tu décidé au final ? Et on sait que Caïn avait décidé de prendre cette pierre et d'aller tuer son frère Abel. Dieu lui dit, où est ton frère ? J'entends le sang de Abel, crier vengeance depuis la terre jusqu'à moi. Et c'est un autre enseignement fort de ce passage. C'est un des tout premiers, mais il est assez fort pour la construction de l'humanité. Il nous dit que le sang appelle le sang, que le sang demande réparation à Dieu, et que Dieu entend, et qu'il ne peut pas l'ignorer. Parce qu'il est garant de la justice. C'est Dieu qui juge. Et c'est pas n'importe quoi de dire ça, c'est Dieu qui juge. Et trop souvent, nous, on déborde sur cette fonction de juge. Hein, on se fait justice. Soyons pas trop rapides à juger et à venger les torts, hein, parce que Dieu a délégué des autorités pour le faire. Et en même temps, la Bible n'exclut pas hein, la colère. Jésus lui-même s'est mis en colère et Dieu est un Dieu en colère. Mais la colère de Jésus a construit un royaume. Elle s'est fermement opposée au mal. C'est le psychanalyste, le docteur Brugère, qui a souligné quelque chose de très intéressant. Il n'était pas chrétien, hein, mais dans ses études sur la colère et sur la violence auprès des jeunes notamment, il a dit « La colère est un puissant instinct de survie qui nous soulève contre l'injustice. » La colère est un instinct de survie, en soi elle n'est pas mauvaise, et elle nous fait dire non à l'injustice. Quand on ressent qu'un tort a été commis, on est en colère, il y a quelque chose qui se produit en nous. Le problème, c'est que trop souvent, cette colère, on l'autorise aussi à crier vengeance, hein, à faire sa propre justice. La colère, elle crie justice, mais elle est incapable de la donner. Et il va falloir qu'on trouve d'autres ressources pour résoudre nos conflits, nos difficultés. Alors, Jésus l'a repris, cet enseignement du Père, et il est même venu le porter beaucoup plus loin encore. C'est ce qu'on va voir ensemble. Il arrive après le contexte donc, de l'Ancien Testament, où énormément de choses ont déjà été dites, mais où aucun problème n'a été résolu. Ce qu'a fait l'Ancien Testament, c'est nous révéler, c'est révéler aux hommes le cœur d'esclaves qu'ils ont, et le cœur d'un père qui est tellement différent. Et Jésus n'a pas voulu nous mettre dans l'erreur d'interprétation hein, par rapport à cet Ancien Testament. L'Ancien Testament, il est bon. Je ne suis pas venu pour l'abolir, je suis venu pour l'accomplir. Ne vous y trompez pas. L'Ancien Testament vous a conduit jusqu'au point de rupture où vous ne pouvez que reconnaître que votre cœur ne suffira pas. Et face à la violence, combien notre cœur ne suffit pas, hein ? Pourtant, Jésus va aller beaucoup plus loin que l'Ancien Testament. Il va venir au dedans du cœur et il va venir le changer complètement. L'Ancien Testament nous expliquait qu'il ne fallait pas être meurtrier et c'était quelque chose à peu près acquis pour tout le monde, mais Jésus va venir nous expliquer qui est vraiment le meurtrier et comment, au contraire, traiter celui qui nous fait du tort. Il nous faut non seulement l'épargner, mais aussi l'honorer, le servir et l'édifier. Et c'est là où on va avoir vraiment besoin du Saint-Esprit. On verra ça plus tard. C'est un message qui est puissant, c'est vraiment un message qui nous fait mal, qui va nous déranger, et il nous faut avoir à cœur la perspective de cet enseignement, sinon on va passer à côté à coup sûr. Jésus a connu beaucoup d'opposition dans sa vie, il a connu beaucoup d'injustices et il aurait pu crier vengeance beaucoup de fois. Et ses disciples étaient souvent là pour lui suggérer, hein, fais tomber le feu du ciel, on va tous les exterminer, ou bien prenons une épée hein, pour tous les transpercer aussi, ce serait une solution. Mais Jésus n'a pas voulu de cette toute-puissance-là parce qu'il avait en vue des choses bien plus grandes. Et c'est dans son fameux discours du sermon sur la montagne qu'il va venir nous l'expliquer. C'est son premier discours public rapporté par la Bible. Et comme le Père, dans sa première intervention auprès de Caïn, c'est vraiment sur ce thème-là que Jésus va aussi venir rencontrer l'humanité, à l'endroit sensible. Il nous dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas de meurtre. Eh bien moi, je vous dis, celui qui se met en colère, qui dit imbécile ou qui traite de fou son frère, celui-là même encourt la même peine. C'est la même chose. Hein. » Ce que nous dit Jésus, c'est que dans l'insulte, la posture du meurtre est déjà prise. Jésus nous dit, quand tu murmures contre quelqu'un, au fond, tu as déjà un peu envie de le détruire, de le tuer. C'est le pouvoir de la langue. Hein. Mais il va aller plus loin. Jésus ne va pas nous laisser avec ce constat un peu accablant. Il va nous conduire là où il veut nous amener. Il est venu construire un royaume puissant, hein, qui lui ressemble enfin. Et il nous explique comment traiter l'autre, même lorsqu'il nous blesse. Et là, c'est presque là que ça va faire le plus mal. Il nous dit, vous avez entendu, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, ne résistez pas à celui qui vous veut du mal. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent, appelez la bénédiction sur ceux qui vous maudissent. Si, si, faites-le. Priez pour ceux qui vous calomnient. Si quelqu'un te gifle sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, ne l'empêche pas aussi de prendre ta chemise. Donne à ceux qui te demandent, n'exige pas qu'ils te rendent. Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Alors, votre récompense sera grande. Vous serez les fils du Très-Haut. Parce que votre Père est plein de bonté, soyez donc bons comme lui, à son image sur terre. Hein ? Alors pourquoi Jésus nous dit tout ça alors qu'il sait qu'on a déjà tellement de mal à ne pas étriper notre prochain ? C'est un enseignement qui est insupportable hein, pour le monde. C'est horripilant. Pourtant, c'est précisément ça qu'il est venu racheter. Jésus ne nous a pas caché qu'il venait avec des intentions fortes dans ce monde. Il vient enlever le péché, il vient changer nos cœurs et renouveler toutes choses. Et il nous fait participer à tout ça. Et dans son d'entrée de jeu, dans son premier discours, Jésus nous annonce tout ce qu'il va accomplir par la suite. Il a accompli chacune de ses paroles qu'on pense impossibles. Il a supporté toutes ces choses. Il a été calomnié, insulté, on lui a pris son manteau, on l'a giflé, hein, et il n'a pas exigé réparation. Il n'a pas crié vengeance, il n'a pas fait venir le feu du ciel. Il a encaissé toute cette violence et il n'a pas voulu se rendre justice à lui-même. Il avait envie, en vue, une justice plus grande, un royaume plus grand, hein, qui ne connaît que l'honneur de l'autre, la paix du prochain, l'amour pour Dieu, la patience, la bonté. Il a aimé ceux qui lui faisaient du mal, il priait pour ceux qui participaient à cette boucherie. Il a demandé qu'on prenne soin de sa mère. Sur la croix, Jésus pensait à sa mère. Et il a dit, pardonne-leur, Père, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent tellement pas ce qu'est ton royaume, Seigneur. Et c'est ça la perspective. Hein. C'est le royaume de Dieu. La croix, c'est la victoire de l'amour sur la violence. Ô mort, où est ton pouvoir ? Parce que l'amour a victoire sur tout. Dieu a prouvé qu'honorer l'autre était plus fort que défendre bec et ongle l'orgueil contrarié. Oui, on peut être en colère, dire non, mais on n'a plus besoin de crier vengeance, parce que Jésus est notre justice et ça calme notre colère. Et il nous apprend à user de grâce, hein, à pardonner. Alors votre récompense sera grande. Vous serez image de Dieu sur terre. Il s'agit profondément d'identité. La clé face à la violence, c'est notre identité. Est-ce qu'on est des loups assoiffés de vengeance ou est-ce qu'on est un fils du Très-Haut, un citoyen du ciel hein ? Et Jésus savait exactement qui il était, ça a été sa grande force. Il n'en a pas dévié une seconde. Hein. Il ne s'est pas trompé dans la vision qu'il est venu implanter. Hein. Ce n'était pas une vision faible, non. Il y a cru et il a vécu chacun de ses instants sur terre dans cette perspective-là. Il appelait ce royaume sur terre. Il prophétisait dans toute son attitude. Et il nous invite à le faire les uns avec les autres, même quand ça nous fait mal, même quand c'est difficile. Est-ce qu'on se laisse convaincre hein, par cette vision ? Est-ce qu'on reconnaît finalement sa supériorité ? Le monde propose la guerre et Jésus propose d'honorer son prochain, de rechercher la paix, même lorsqu'il est le plus grand criminel. Si tout le monde adhérait à ça, tout serait très différent, c'est sûr. Et la création soupire après l'avènement des fils de Dieu. La création attend qu'on soit des fils du Très-Haut. Alors, comment y parvenir ? Parce que les idées sont belles, hein, mais la réalité est tenace. Hein. Les situations nous tiennent bien ancrées sur terre. Et c'est là qu'on va être obligé de laisser le Saint-Esprit diriger notre vie. C'est là qu'on peut compter sur le Saint-Esprit. Le Père, le Fils, l'Esprit. Dieu a mis toute sa personne. Hein. Il a voulu qu'on ait besoin de lui entièrement. Et il s'est engagé pleinement, avec nous, pour nous, en vue de son royaume. Alors le Saint-Esprit va faire beaucoup de choses. Il veut faire beaucoup de choses. Il va notamment nous donner, par exemple, du discernement sur les faits. dans nos situations. Il va nous aider à comprendre les situations. Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est de l'ordre de l'interprétation, du malentendu, de la rancœur parfois. Il met en lumière la vérité. Hein. C'est la grande force de la vérité. Et rien que ça, comprendre qu'est-ce qui se passe réellement pour moi et pour l'autre, ça peut désamorcer énormément de situations. Il n'y a parfois pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Comprendre qu'est-ce qui est en train de se jouer en fait dans cette situation. Voilà. Il va nous donner aussi du discernement sur nos colères. Hein. Qu'est-ce qui nous met vraiment en colère ? Il nous éclaire en fait sur nous-mêmes, ce qui nous fait réagir. Il y a des colères qui sont justes, il y a effectivement parfois des choses à défendre, mais il y a aussi des colères qui sont injustes. La colère de Dieu, par exemple, est toujours juste. Il a toujours raison de dire non, ça, on ne peut pas. Mais notre colère à nous, elle n'est pas toujours juste. On n'a pas toujours raison d'être en colère. Et on a besoin de Dieu pour savoir ce qui est juste, en plus. Parce que notre notion de la justice, elle est floue. Même quand on croit que quelque chose est juste, on a besoin de questionner le Seigneur pour dire, toi, qu'est-ce que tu en dis ? Par exemple, je me mets facilement en colère quand je suis fatiguée ou quand j'ai faim. Ce ne sont pas des colères qui sont justes. Ou quand je suis découragée. Est-ce que c'est juste ? Est-ce que mes enfants sont en tort quand, au moment du repas, je m'énerve à la moindre occasion ? Non. Et le Saint-Esprit m'a appris à connaître, à reconnaître quand j'ai un besoin, simplement. Mais ce n'est pas une cause à défendre, c'est juste moi, avoir besoin de faire attention à tout ce que je suis. Il y a parfois des combats à mener, mais parfois c'est juste des remises en question à avoir. Le Saint-Esprit va nous donner des armes aussi. Hein. Troisièmement, il va nous donner des armes pour dépasser notre colère. Et une arme assez efficace, c'est de passer à l'action. Que notre colère soit transformée en quelque chose de constructif. Comme la colère de Jésus a construit un royaume, que nos colères, quand on les a bien identifiées, quand on a demandé à Dieu comment agir, eh bien qu'elles construisent quelque chose. Par exemple, moi je suis toujours épatée quand je vois Aline. Aline, je sais que c'est une femme qui est en colère. Je sais qu'il y a des choses qui la soulèvent. Et quand elle décide de s'engager dans cette association Hope and Joy pour venir en aide à des femmes qui sont dans la rue et qui sont obligées de se prostituer, je me dis que sa colère produit quelque chose de bon. Hein, sa colère l'amène à l'action. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle honore ces femmes. Notre colère peut être constructive. Ce n'est pas toujours une honte d'être en colère. Mais demandons à Dieu comment transformer cette colère en quelque chose de constructif. Il y a une autre clé qui est indispensable, c'est le pardon. Hein ? Le pardon nous fait passer au-delà du point de crispation qui est l'injustice. Parce que l'injustice, elle nous dévore. Si on n'arrive pas à la dépasser, elle nous dévorera. Elle nous empêche aussi de nous approprier les fruits de l'esprit. Par contre, le pardon libère. Il est puissant, le pardon. On n'est pas faible quand on pardonne quelqu'un. On décide résolument d'être fort. Parce que sans pardon, il n'y a pas de reconstruction. Le pardon, c'est miser sur l'avenir. C'est le préalable à la puissance de l'esprit dans nos vies. Il est le point de bascule dans notre cœur. Je ne sais pas si vous vous rappelez du premier point de bascule qui nous fait attaquer notre prochain. Et bien, le pardon, il est le point de bascule dans notre cœur qui nous fait rentrer dans les choses d'en haut. Hein. Et le fruit de l'esprit va couler. Hein. Il va inonder notre situation parce que l'esprit approuve profondément le pardon et la grâce. Il en coûte de faire grâce. Vraiment, il en coûte. Mais c'est aussi cette grâce qui témoigne qu'on est des fils et des filles du Très-Haut. Un dernier point que va faire l'Esprit, c'est nous donner des pistes pour honorer Dieu et notre prochain dans notre situation. Et là, il y a vraiment énormément de choses à faire. Il y avait l'exemple d'Aline, mais je crois que vraiment l'Esprit veut nous apprendre à construire, brique après brique, un royaume qui honore l'autre, qui recherche la paix. On a Éphésiens 4, verset 29-32, qui nous dit « Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté, construisez hein, par votre bouche, qu'elle réponde à un besoin et aide les autres à grandir dans la foi. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte. Faites disparaître ça du milieu de vous. Vous avez dépassé ce stade-là hein, et toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous pardonne en Christ. Saint-Esprit, c'est vraiment un allié indispensable. Demandons-lui, prions-le. Dieu veut révéler sa pensée, Dieu veut nous faire construire. Et toutes ces choses-là, les quatre points qu'on avait juste avant, toutes ces choses, c'est dans la prière que nous les obtenons, hein, dans la communion à Dieu. Il veut vraiment révéler sa pensée. Galates 7, 5, verset 13-17 nous dit « Vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes, des loups. Hein. Au contraire, et par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes se trouve dans cette parole. Aime ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous blessez les uns les autres, et si vous vous entre-déchirez, prenez garde, vous vous détruirez mutuellement. Hein. Je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Hein. Tout le monde sait bien ce qui procède du loup, mais ce qui procède, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. C'est juste tout ce dont on a besoin dans nos rapports les uns avec les autres. L'esprit, le fruit de l'esprit. C'était Luther qui disait que Dieu donne ce qu'il ordonne. Dieu a des exigences élevées pour nos vies. Mais en même temps, il nous donne tous les moyens pour y arriver. Hein? Il sait où il nous conduit et il sait qu'il va nous y conduire lui-même. Dans ce passage, Paul nous parle de la liberté du croyant. Hein? C'est un thème qui est passionnant parce qu'il est vraiment à contre-courant avec tout ce qu'on peut entendre sur la liberté dans le monde. Quelle est notre liberté? Hein? Comment la vivre? Comment Dieu lui-même a vécu sa liberté? Hein? On voit que l'Esprit sert le Fils. Le Fils sert le Père. Le Père donne au Fils, il donne un royaume au Fils. Et aucun n'est lésé par ce service réciproque. Au contraire, Dieu est entièrement glorifié par tout ce qu'il fait. Hein? Il puise même sa toute puissance dans ce service réciproque, dans cet honneur rendu à l'autre. Et nous, on est créés sur ce modèle-là. Hein? C'est une clé pour nous. On tirera notre puissance en tant que peuple de Dieu dans le service réciproque, dans l'honneur rendu à l'autre. Hein? On ne sera pas lésé par tout ce qu'on s'offre les uns aux autres. On ne sera pas lésé par tout ce qu'on transmet à l'autre. Au contraire, on sera puissamment fortifié, brique par brique. Au final, cette intervention de Dieu, ça nous fait passer du loup rempli de colère à l'homme qui pardonne et ensuite au Fils du Très-Haut, hein, citoyen du ciel, ambassadeur de Dieu sur terre. Et la création soupire après ça. En conclusion, s'ils peuvent y arriver, on le peut aussi. Hein, c'est la vision d'Ésaïe. Ésaïe ne s'est pas trompé sur là où Dieu voulait nous conduire. Hein. Le loup vivra avec l'agneau, la panthère sera aux côtés du chevreau, le veau, le lionceau et le bœuf à l'engrais seront ensemble et le petit enfant les mènera auprès. Plus de pleurs, plus de larmes, plus de grincements de dents. Hein? Les uns les autres dans la pensée de Dieu, c'est complètement autre chose hein, que ce qu'on connaît ici-bas. Et c'est pourquoi c'est parfois si difficile pour nous de le vivre, parce qu'on a les deux pieds bien plantés sur terre. Pourtant, l'incarnation de Jésus et le don de l'Esprit, ça nous montre que c'est possible de commencer à vivre sur terre comme au ciel. Que ton règne vienne. Hein? Que le royaume est déjà là. Quand on s'y attache chaque seconde de nos vies. Dieu a vraiment mis toute sa personne pour nous apprendre à vivre en paix les uns avec les autres. Et il nous faut user de grâce, simplement, quand on n'y arrive pas. Parce qu'il y a des fois où on n'y arrivera pas. Mais on sait où on va et on sait avec qui. Il n'y a pas de super-héros parmi nous hein, ce matin. On a tous profondément besoin d'apprendre. Mais c'est une perspective glorieuse pour nos vies. On pourrait avoir un Dieu froid et distant, sans amour, qui s'accommode d'être adoré, hein, et qui nous laisserait nous entre-déchirer ensemble. Hein. Mais non, les uns les autres, ça nous parle de Dieu. Hein. Il n'est pas jaloux du service qu'on s'offre les uns aux autres. Il n'est pas jaloux de l'amour qu'on se porte les uns pour les autres. Il n'est pas un tyran exclusif et ce n'est pas vers ça qu'il conduit la création. Alors, il y a un temps pour la colère, un temps pour chaque chose, nous dit l'Ecclésiaste. Soyons en colère, mais que notre colère nous fasse construire un royaume. Qu'elle nous mette en action, une action positive. Qu'elle s'apaise avant le coucher du soleil, nous dit Éphésiens 4. Qu'elle soit juste, maîtrisée. Et soyons dans la vérité, si quelque chose nous dérange entre nous, nous fait réagir, parlons-en, en vérité, avec toute la puissance de la vérité, mais en vue de la paix. Et c'est vers ça qu'elle va aussi, la vérité, la paix. Tout est dans la posture, édifier ou détruire. Il y a aussi un temps pour la paix, nous dit l'Ecclésiaste, et là, on peut vraiment se poser avec le Saint-Esprit, se donner des pistes même les uns aux autres. Quelle posture pour réconcilier? Quoi honorer chez l'autre? Quoi encourager? On peut être très fort quand on défend quelque chose. L'être humain peut être très fort quand il a envie de quelque chose. Demandons à Dieu quoi défendre et comment le défendre. Le message de Dieu, ce n'est pas un message mou. Il a plein de combats à mener, mais il n'y a pas une goutte de sang à verser. Alors les flingueurs qui sont dans la salle veulent que les choses changent, et c'est bien, c'est une qualité à mettre au service du Seigneur. Ils peuvent changer les choses, et ils en ont l'énergie, certainement. S'ils en ont l'envie, ils en ont certainement aussi l'énergie. Mais avec les armes de l'esprit, sinon ils risquent de les empirer. Voilà. Si quelqu'un a besoin de prière sur tout ça, parce qu'il y a parfois des colères qui sont trop lourdes à porter, je vous encourage vraiment à prier les uns avec les autres ou venir à la fin du culte pour qu'on prie ensemble, parce qu'il y a des grandes délivrances à avoir en se déchargeant de vieilles colères. Ces vieilles colères, elles sont vraiment comme des liens qui nous empêchent d'avancer. Si vous voulez qu'on prie pour plus d'esprit dans vos vies, parce que vous en êtes à ce point de reconnaissance que votre cœur ne suffit pas et que vous avez profondément besoin de l'esprit qui inonde vos vies, mais venez, on priera pour son discernement, pour son action, pour son conseil. Dieu veut vraiment se révéler. Et si vous avez tout particulièrement à cœur d'aller voir un frère ou une sœur parce que vous avez quelque chose que vous voulez honorer chez lui, je vous encourage à le faire. Ou si vous avez une situation dans laquelle vous sentez qu'il faut apporter la paix avec une personne, une réconciliation à avoir, je vous encourage à le faire parce que c'est très certainement l'esprit qui commence dès maintenant à travailler avec vous. Ce n'est pas un sentiment naturel. L'esprit vous murmure des choses. Et je vous encourage à le faire rapidement, avant que l'envie vous passe. Voilà, Seigneur, tu vois les situations qu'on traverse, tu les connais mieux que nous, Seigneur Dieu, et tu vois comme elles nous font réagir, et Seigneur, on te demande pardon parce qu'on se laisse tellement vite déborder par la violence, Seigneur. On veut te remercier parce qu'on sait que tu as des perspectives glorieuses pour nos vies, Seigneur Dieu. Tu as l'initiative de ces perspectives glorieuses. Et on te demande de nous apprendre à te ressembler, à être ton image, Seigneur. Seigneur Dieu, éclaire-nous sur les racines de notre colère, Seigneur Dieu. Apprends-nous à la dépasser, Seigneur, à être des artisans de paix. Seigneur, apprends-nous à honorer l'autre, à servir notre prochain, à être dans cet amour qui triomphe de tout, Seigneur Dieu. Merci parce que ton règne vient, Seigneur. Sois glorifié, Père, dans notre assemblée. Je te prie aussi pour ton esprit, Père. Je sais que tu aimes la paix et je te demande pour cette assemblée, Père, la paix, Seigneur, ta paix, Seigneur Dieu. Amen.